9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
AVS, à votre santé, le mardi c'est à votre santé sexuelle. Nader Alamit avec nous, bonjour Nader.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Psychosexologue, diplômé de l'école de psychosexologie de Paris et auteur de 19 thèmes sur la sexualité des musulmans. Nader, lundi se déroule la journée internationale de lutte contre les mutilations sexuelles féminines. Et c'est en 2012 que l'Assemblée générale des Nations unies a décidé de célébrer la journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines le 6 février. Et c'est tous les ans qu'on commémore cette journée dans le but d'amplifier et d'orienter les efforts visant à éliminer cette pratique. Nous recevons ce matin Alimata Fofana. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Après une vie professionnelle très remplie, vous êtes devenue romancière engagée et vous donnez aujourd'hui des conférences sur les mutilations sexuelles faites aux femmes et vous vous battez pour les autres et vous êtes là pour nous parler aujourd'hui de votre premier, est-ce qu'on peut dire roman ou essai ?
Bah, c'est un mixte des deux. C'est en partie un roman et je me suis aussi beaucoup inspirée de ce que j'ai vécu.
Ça s'appelle À l'ombre de la cité Rimbaud, aux éditions du Rocher. Vous êtes Rimbaud, vous-même, comme votre héroïne Maya, ou pas du tout ? Est-ce que vous êtes de Rimbaud, vous ? Est-ce que vous avez grandi à Rimbaud ?
Dans une cité qui ressemble à la cité Rimbaud, oui. Mm-hmm. Alors, elle s'appelle autrement, mais oui, j'ai grandi dans une cité.
Oui. Maya, votre héroïne, a grandi au 13e étage de cet immeuble de la résidence Arthur Rimbaud. Vous expliquez que finalement, on vit tous en France, chacun dans son environnement. Dans quel environnement Maya a-t-elle grandi ?
Je dis, on vit tous, chacun, dans un monde, je dis.
Oui.
C'est dans un monde. Ça montre bien qu'on est dans un environnement parfois qui est clos sur lui-même. Et Maya, elle grandit dans un environnement qui est clos sur lui-même avec d'autres codes, une manière de vivre, de manger, de se vêtir. Quand elle est à la maison et quand elle quitte la maison, elle rentre dans un autre monde. Et cet autre monde, eh ben, c'est l'école dans un premier temps. Parce que mon roman débute et Maya, elle a l'école maternelle, donc c'est encore qu'une enfant.
Mais c'est Maya adulte qui raconte l'histoire.
C'est Maya, dans un premier temps, c'est Maya enfant qu'on entend. C'est-à-dire qu'elle s'exprime comme une enfant, elle a le vocabulaire d'une enfant. Elle n'est pas encore en mesure de penser, de réfléchir, d'analyser ce qu'elle vit. Elle vit les choses telles qu'elles arrivent. Elle ne se pose pas encore des questions, mais peu de temps après, elle va commencer à remettre en cause et à questionner ce qu'elle vit, à questionner son environnement, sa famille.
Mmh. C'est une fille qui dit avoir compris pourquoi elle a reçu l'éducation qu'elle a reçue et elle dit qu'elle a pardonné à ses parents, à son père et à sa mère et qu'elle s'est libérée des chaînes de l'éducation qu'elle a reçue finalement.
Oui, ça c'est en partie, ça c'est moi Alimata. Je voulais parler du pardon parce que je pense que c'est quelque chose d'essentiel où c'est vrai que aujourd'hui on en entend peu parler et souvent quand on traite de la question de l'excision, des mutilations sexuelles faites aux femmes, moi on m'a souvent dit Malimata, tu dois en vouloir à mort à tes parents. Non. Il fut un temps j'ai été très en colère contre mes parents mais je me suis libérée de cela parce que pardonner c'est aussi pour soi. Parce que vivre avec la colère c'est quelque chose qui nous use de l'intérieur. Et j'ai compris que mes parents, ils ont fait comme ils ont pu avec ce qu'ils avaient. Et ça, c'était un élément essentiel. C'est à partir de là que je peux déposer le sac beaucoup trop lourd que j'avais sur le dos, quand j'ai compris cela. Que les gens, ils font comme ils peuvent avec ce qu'ils ont. Et la colère, elle est légitime à un moment donné, mais il faut en faire quelque chose.
Pardon, Maya a une sœur qui est plus en colère qu'elle.
Maya, sa petite sœur. Alors, quand on est l'aîné dans une fratrie, ça joue. Hein. D'être le premier, il y a une pression que la deuxième personne n'a pas. Elle est en colère, oui et non, je dirais Machel. Machel, c'est une fille qui vit les choses, qui a beaucoup moins de pression comparée à sa grande sœur Maya. Donc, elle se sent beaucoup plus libre. Alors qu'elle reçoit la même éducation que Maya, mais elle s'autorise davantage de choses que Maya. La différence, elle se fait là.
Alors pour tout le monde, qu'est-ce qu'on appelle et qu'est-ce qu'on met dans la famille des mutilations génitales féminines ?
Il y a différents types d'excisions. Alors la première excision, c'est ce qu'on trouve plutôt en Indonésie où on coupe au niveau du capuchon. du clitoris de la femme. C'est vrai que en Afrique de l'Ouest, on a un autre type où on coupe l'entièreté du clitoris et parfois également les petites lèvres. Et c'est vrai que du côté de l'Afrique de l'Est, on a une troisième forme où on coupe le clitoris, les petites lèvres, et on coud les lèvres supérieures et on laisse un espace pour les urines et les menstruations.
Ça, c'est les trois types qu'on connaît. C'est un phénomène qui est universel, qu'on retrouve dans l'ensemble de la planète, ou il y a des régions spécifiques?
C'est une pratique qui a existé un peu partout dans le monde. Alors après, dans certains pays, ça s'est arrêté, mais on en trouve en Amérique du Sud également, au Kenya. Alors c'est pas lié forcément à la religion, vous voyez, parce qu'en Égypte,
souvent c'est ce qu'on entend.
C'est ce qu'on entend, mais ce n'est pas forcément une vérité, parce que les Coptes ne sont pas du tout musulmans et ils excisent. En Égypte.
L'Égypte, c'est le pays au monde où il y a le plus d'excision.
Oui, mais je pense que en Guinée aussi, ils sont à 98% en Guinée au niveau des filles. Hein. En Guinée. C'est aussi très important.
Ouais. On sait quelle est l'origine de cette pratique.
On parle dans l'histoire, on fait remonter ça même à l'Empire romain. Il y a eu des cas d'excision dans l'Empire romain. Après, il faut savoir que l'Empire romain, c'est très grand. L'Empire romain, ça englobe quand même à une certaine époque cette zone géographique de la mer Rouge. Et il semblerait que ce sont les populations de la mer Rouge qui sont les premières à exciser. D'où peut-être justement ce que vous disiez, Philippe, à savoir que l'Égypte est un pays... Donc justement qui borde la mer Rouge et où l'on trouve beaucoup de cas justement de pratiques de l'excision qui ont continué dans le temps
jusqu'à aujourd'hui. Mais la différence avec l'Égypte, c'est qu'elle est en Égypte, l'excision, c'est quelque chose qu'ils font dans les hôpitaux.
D'accord.
Dans les hôpitaux.
Oui.
Donc vous imaginez, quand c'est fait dans les hôpitaux, on retire tout.
C'est-à-dire qu'à la différence, c'est de façon chirurgicale,
de façon chirurgicale, voilà, par des médecins. Voilà. À la différence de ce qui peut se passer en Afrique, moi, ce que j'ai subi étant enfant, on a coupé la partie extérieure du clitoris, mais il s'avère que le clitoris est beaucoup plus grand. Donc il y a une partie intérieure. C'est pour ça que quand
invisible.
Oui, là, c'est ça. On a coupé la partie visible.
Au moins 10 centimètres.
Mais voilà, c'est ça. Mais la partie invisible n'a pas été coupée. Comparé à quand ce sont des médecins qui le font, ils retirent tout.
D'accord. Jusque l'intérieur même.
L'intérieur, oui.
Donc il ne reste plus rien.
Il reste plus rien. C'est pour ça que la réparation chirurgicale, le cas comme ce que moi j'ai subi, ça fonctionne.
C'est-à-dire que la réparation, ce qu'on appelle la réparation chirurgicale, est possible dans la mesure où on n'a pas touché à
l'intérieur.
Il
faut qu'il reste quelque chose.
Exactement,
quoi.
Exactement.
Au Maghreb, c'est une pratique qui a eu lieu, Nader, ou pas du tout?
Au Maghreb, je n'en ai jamais entendu parler. Je ne connais pas. Je ne connais pas ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, attention. Mais je ne connais pas, en tout cas, je parle sous votre contrôle aussi, je ne connais pas de cas d'excision dans les pays du Maghreb, j'entends par là Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Mauritanie, j'en sais moins.
Mauritanie, si,
voilà. Oui. Mais en tout cas, Maroc, Algérie, Tunisie, je ne connais pas de cas d'excision, non.
Alimata, vous avez entendu parler de cas d'excision, vous, au Maghreb, ou jamais?
Les trois pays, Tunisie, Maroc, Algérie, non, je sais que c'est une pratique qui n'existe pas dans ces trois pays.
D'accord.
Mais par contre, en Mauritanie, ça, je sais que la pratique existe, ça, j'en suis sûr.
La grande question qui, moi, m'a toujours interpellé, c'était sur le but. Quel est le but recherché par cette pratique? Parce que souvent, ce qu'on entend, c'est attention, le plaisir féminin peut amener les femmes à être pas vierges le jour du mariage. On entend aussi une tradition qui voudrait que l'excision permet à la fille de passer à l'âge adulte, c'est-à-dire qu'elle devient femme après avoir été excisée.
Ça, on dirait un rituel, ce que vous nous racontez,
oui.
Nader.
Oui et non, parce que moi j'ai subi ça à l'âge de 5 ans. Donc à 5 ans, la volonté n'était pas que je devienne, qu'il y ait un passage entre l'enfance et la vie de femme. Et je rappelle qu'il y a des excisions qui sont pratiquées sur des bébés qui ont 1 mois, 2 mois, 3 mois.
Mais alors quel est, c'est ça qui me...
Alors l'objectif de l'excision, c'est une volonté de contrôle absolu du corps de la femme. Ce que vous avez dit précédemment, c'est qu'il y a la peur première, c'est que la fille tombe enceinte en dehors du mariage.
Ça, c'est la famille, c'est pour la famille.
Ça, c'est la famille, oui, voilà. Pour l'honneur de la famille. Donc, de peur d'être déshonoré, comme on castre un chat, donc on ampute les petites filles, les bébés, pour éviter qu'elles tombent enceintes en dehors du mariage. Et il s'avère que c'est faux. Hein. Il y a des filles qui ont des relations sexuelles en dehors du mariage, même si elles ont subi une excision.
Oui, donc il y a... Vous faites parler les mamans entre elles dans votre livre. Oui. Elles disent, c'est pour que la fille, elle arrive propre le jour de son mariage.
Pure.
Ouais. Oui, propre, pure. Ça veut dire que vraiment, ça montre bien que le sexe féminin est associé à quelque chose de honteux, de sale. Derrière ça, même sur la question des règles, quand je parle de ça dans ce livre, il y a quelque chose qu'il faut cacher. Donc le sexe de la femme, il doit apparaître.
Elle ne veut pas dire.
Elle
veut pas le dire.
Parce que c'est Maya est le fruit d'une éducation. Donc moi, c'est ça que je voulais montrer dans le livre. C'est que cette petite, elle réagit aussi en fonction de ce qui lui a été transmis par le biais de sa famille et également dans un second temps par le biais de l'école. Mais ça va arriver beaucoup plus tard. Donc je disais précédemment, il y a une volonté absolue du contrôle absolu du corps de la femme, la peur que la fille tombe enceinte en dehors du mariage. Et pour les familles qui ont quitté l'Afrique et qui se retrouvent en Occident, ces familles sont davantage attachées à la tradition que ceux qui sont restés au pays. C'est ça qui est intéressant.
Le cas du père de votre héroïne.
Oui. Il est beaucoup plus attaché, et de manière générale, de ce que j'ai pu observer, c'est le cas.
Vous voulez dire que les familles qui sont aujourd'hui, par exemple, au Mali, sont moins attachées à la tradition, sont plus ouvertes que les familles originaires du Mali, mais qui vivent
dans les migrations. Nos familles qui sont ici, elles se sentent en danger.
Oui.
Elles ont très, très peur de perdre leur tradition, ce qui les constitue. Et quand vous n'avez pas eu accès forcément à l'instruction à l'école, et que vous arrivez en Occident, la seule chose qui vous reste, c'est ça.
Oui, et puis vous dites, c'est montrer à ceux qui sont restés au pays que nous, dans l'immigration, on élève nos filles avec les valeurs.
Oui, on élève nos filles comme il faut, malgré le fait qu'on soit parti. Et il ne faut pas oublier qu'il y a le regard de la belle famille qui est restée au pays, qui reste.
Ça, c'est pour la mère, c'est pour la maman, ça.
Oui, voilà. La maman, elle a une pression.
Elle est jugée là-dessus, dans son éducation. Elle a des comptes à rendre, en fait.
Exactement, elle a des comptes à rendre.
Alors, c'est un témoignage poignant, à l'ombre de la cité Rimbaud, aux éditions du Rocher. Et on parle de justement ces mutilations ce matin jusqu'à 10h.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
À votre santé. Et ce matin, on parle de choses dont on ne parle pas. C'est ce qu'on était en train de se dire hors antenne avec Nader Alami, qui est psychosexologue, et puis notre invité qui s'appelle Alimata Fofana, qui est romancière, qui donne des conférences un peu partout en France et dans le monde sur ces violences et ces mutilations qui sont faites aux femmes, l'excision notamment, et qui publie une histoire qui s'appelle « À l'ombre de la cité », Rimbaud, aux éditions du Rocher. Quand on dit c'est quelque chose dont on ne parle pas, votre héroïne Maya a mis longtemps à parler de ce qui lui était arrivé, puisque alors vous, dans vos livres, elle est victime d'excision à l'âge de 10 ans, plus tard que vous d'ailleurs.
6 ans.
6 ans ?
Oui. Ah, moi, j'ai fait exprès de choisir 6 ans. Moi, j'ai subi l'excision plus tôt, parce que vous savez...
À quel âge ?
À 5 ans.
Ouais.
Mais de 0 jusqu'à 6 ans, il y a un suivi dans les PMI. Donc les familles, elles savent qu'il y a un suivi régulier avec un pédiatre. Mais après, il n'y a plus rien. Donc maintenant, les familles, ce qu'elles font, c'est qu'elles font subir l'excision aux petites filles après cette période-là, donc à partir de 6 ans. C'est pour ça que j'ai choisi, pour Maya, qu'elle subisse à 6 ans.
Et quelque chose de très intéressant dans le fait qu'on n'en parle pas, c'est comme si on voulait laisser croire, même si tout le monde le sait, qu'il ne faut pas en faire toute une histoire. C'est un acte normal, il n'y a rien d'extraordinaire, donc ça se fait, c'est tout. Voilà, il n'y a pas besoin d'en parler, c'est quelque chose qui n'a pas de véritable incidence. Voilà, le fait qu'on n'en parle pas, je trouve que c'est très important.
Oui, le fait qu'on n'en parle pas, comme vous dites, derrière cet acte, c'est qu'on fait croire que c'est un acte banal. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'en parle pas, mais de manière implicite, nous les victimes, nous comprenons que nous ne devons pas en parler. Donc
oui, parce que personne ne vous a dit de ne pas en parler.
Personne ne
m'a dit. Il n'y a pas d'injonction au silence.
Non, mais vous le comprenez. Parce que d'un côté, vous subissez une excision, on ne vous explique rien, on ne vous parle de rien. Vous subissez un acte. Alors, en plus, quand vous êtes enfant, vous ne savez pas vraiment ce que c'est. Le mot excision, moi, je méconnaissais. Donc, vous subissez cet acte, on ne vous dit rien. Après cet acte, on ne vous dit rien non plus. Donc, tout se fait, comme vous dites, dans un silence.
Tout va bien.
Voilà.
Je n'ai pas à en parler. C'est
tout va bien, mais il y a quand même des accidents. Il faut quand même dire qu'il y a des filles qui meurent à cause de cela. Il y a des problèmes de septicémie, d'hémorragie. Derrière, il y a toutes les conséquences physiques. D'énurésie aussi. Moi, il y a des filles qui m'ont raconté aussi les problèmes.
L'incontinence, hein, faut, voilà.
Oui, voilà, c'est ça. Il y a tous ces problèmes-là.
Physique,
il y a des gros problèmes physiques et psychiques également, vous imaginez bien.
Lors de l'accouchement également.
Exemple, absolument.
Oui. Il y a, au moment de l'accouchement, il y a des femmes qui meurent en couche à cause de cela. Parce que quand on excise, moi je vous dis, c'est fait de manière très barbare, donc ça cicatrise extrêmement difficilement. Et au niveau de l'orifice vaginal, le problème, c'est que quand les femmes doivent accoucher, souvent après une excision, donc l'orifice est plus rétréci, parce que comme ça a cicatrisé, comme ça a pu, donc le bébé ne peut pas passer. Moi, j'ai des femmes qui m'ont raconté ça. Le bébé ne peut pas passer. Et donc, quand vous êtes dans un hôpital ou avec des médecins compétents, donc soit ils ouvrent tout, vous imaginez, ou une césarienne quand c'est préparé un peu en amont, ou moi j'ai vu dans certaines contrées, les femmes elles meurent, soit le bébé meurt, soit c'est la femme, ou soit ce sont les deux. Donc voilà, aussi les conséquences de l'excision pour plus tard.
Oui. Faut expliquer que pour votre héroïne, donc c'est la première fois qu'elle part au pays, hein, part aller direction Bamako.
Oui.
Elle arrive dans la famille et puis la tante qu'elle préfère le plus la prend par la main, elle lui dit viens, on va aller faire une promenade ensemble. C'est ça qui se passe.
Toujours un traquenard. Il y a toujours un traquenard. Moi, j'ai reçu de nombreux témoignages de femmes. Il y a une femme qui m'a dit oui, on m'a fait croire que j'allais avoir une poupée si je les suivais. Ouais, on m'a fait croire que j'allais. C'était un parc d'attractions. Il y a toujours un traquenard, quoi.
Ah, ça aussi,
on nous embobine, quoi.
Ça aussi, c'est très important, parce qu'après, il y a le rapport au mensonge, le rapport à la vérité. C'est-à-dire que ceux qui sont votre clan, si vous voulez, qui sont, que vous voyez donc petite fille, comme vos protecteurs, parce que ça, moi, ça m'a intéressé tout à l'heure quand vous disiez, au départ, c'est la petite fille qui parle. Ça n'est qu'après, quand l'adulte reprend un petit peu les commandes de l'histoire, qu'elle réfléchit sur ce qui s'est passé avant. Mais au départ, vous disiez, c'est ça qui m'a intéressé aussi, que la petite fille ne se posait aucune question. Elle vivait au jour le jour. Et donc, vivant au jour le jour, elle fait confiance. Voilà, de manière innée, elle fait confiance à ceux qui la protègent. Or, ceux qui la protègent, à un moment donné, il y a quelque chose de très important qui se passe, c'est qu'il y a un traquenard.
Exactement.
C'est donc qu'il y a un mensonge.
Oui, c'est vrai. Il y a un traquenard, il y a un mensonge, et la petite fille, après avoir subi l'excision et qu'elle comprend que cette tante qu'elle aime tant l'a trahie, parce qu'il y a aussi la tante qui l'a trahie, et quand elle retourne voir sa mère et elle sait que sa mère était au courant, elle comprend qu'elle ne peut pas faire confiance
aux adultes, à ses parents.
Elle comprend qu'elle ne peut pas faire confiance à ses parents. Donc, il va falloir trouver des stratégies pour contourner.
Mais à un moment donné, elle dit, quand elle est victime d'excision, elle dit à sa tante, je vais le dire à ma mère. Donc ça, elle a quand même une illusion que sa mère n'est pas au courant à un moment.
Oui, mais c'est pour ça qu'au début, je voulais vraiment être dans la tête d'une enfant, parce que pour elle, sa mère est censée la protéger. Donc quand vous êtes au plus mal, vous faites appel à qui? À vos parents, quoi. Donc elle pense dans un premier temps que c'est sa tante qui lui a fait subir cela et que sa mère
n'est pas au courant.
Donc par la suite, elle comprend que sa mère est au courant. Donc elle se dit, il va falloir que j'avance seule.
J'aimerais qu'on parle du trauma, du traumatisme. Vous avez un souvenir précis de ce jour-là?
Oui, moi j'avais 5 ans. Donc à 5 ans, la mémoire d'un enfant est vive. Donc moi, je m'en souviens comme si c'était hier. Donc c'est pour ça que la manière dont je décris l'excision, c'est ce que moi j'ai vécu quand j'étais enfant.
Donc c'est une bouchère, hein, c'est une vieille dame.
Une vieille dame, je l'appelle la sorcière. C'est une vieille dame.
Moi j'appelle la bouchère, vous voyez donc.
Oui. Qui pratique l'excision, mais comme une... elle, c'est son rôle, quoi.
Ouais, on parle d'exciseuse. Hein.
Ouais, les exciseuses. Voilà. Donc, et j'explique bien qu'avant que Maya subisse l'excision, il y a une petite fille avant. Donc on imagine qu'elle s'est.
Oui, c'est à la chaîne.
À la chaîne, quoi.
Ouais.
Et donc elle utilise le même instrument.
Les exciseuses et non pas les exciseurs. Quelque chose de...
Non, parce que ce sont les femmes qui pratiquent.
Oui, justement.
Ça.
Comme si ici les gardiennes de cette tradition étaient des femmes.
Mais comment expliquer que des femmes qui sont passées par là fassent subir ça à d'autres femmes?
Mais c'est parce qu'elles sont convaincues, ces femmes, qu'elles le font pour le bien des petites filles.
Bien sûr.
Elles en sont convaincues que c'est pour leur bien. Les mères, quand vous discutez avec nos mères, elles disent que, parce qu'elles-mêmes, elles l'ont subi. Oui. Et moi, dans ma famille, on peut monter de génération en génération. Moi, dans ma famille, toutes les femmes ont subi une excision. Moi, j'appartiens peut-être à la dernière, je croise les doigts, à la dernière génération qui subit cela. Parce qu'après, j'ai des nièces et tout, elles n'ont pas du tout subi cela. Mais c'est une pratique ancestrale qui se transmet. Et les mères pensent le faire pour le bien des petites filles. Parce qu'il y a un élément important à garder en tête. C'est qu'une éducation réussie, c'est quand la fille se marie. Hein. C'est pas qu'elle devienne médecin ou astronaute, ça on n'en a rien à faire. C'est qu'elle se marie. Et quand elle est mariée, c'est là que l'éducation est réussie. Donc, quand on excise, c'est pour préparer au mariage. Il y a un lien de cause à effet entre les deux. Donc il faut entrer dans la logique de ces femmes pour comprendre pourquoi elles font cela. Si elles font cela, elles pensent faire pour le bien des filles, parce qu'une fille avec une bonne éducation, elle doit être une bonne mère de famille et une bonne épouse. Et elles savent pertinemment, c'est ce que je mets dans mon livre. Hein. Là, il y a une citation qui dit qu'un enfant bien élevé, c'est grâce à son père. Si il est mal élevé, c'est à cause de sa mère. Donc, vous imaginez bien.
Proverbe de chez vous, que vous citez, mais je crois que ça s'adapte un peu souvent partout, ce proverbe. Nader,
ouais. Est-ce à dire, Alimata, que... les hommes ne se marieraient pas avec une fille qui n'a pas été excisée.
Bah ça dépend des hommes. J'ai un copain qui m'a dit, après le documentaire que j'ai fait, il m'a écrit un message sur Facebook. « Ah, mais moi, je préfère les hommes excisés. » Il m'a dit ça. Je lui ai dit « Mais t'es débile ou quoi ?» Je lui ai dit « C'est du même acabit. » Il me disait « Moi, je préfère les enfants. » Vous voyez, l'espèce de truc de pédophilie. C'est aussi incroyable. Quoi. Après, je lui ai dit « Mais comment tu sais ?» Oh, mais si tu mets ta tête... pour voir si elle a si et même je suis même pas sûre qu'en mettant sa tête certains hommes soient en mesure de voir et de faire la distinction entre les petites lèvres et clitoris. Je suis pas sûre de ça.
Et vous expliquez la honte que Maya a à aller chez le gynéco, justement parce qu'elle n'ose pas montrer.
Elle n'ose pas montrer, mais ça je pense que de nombreuses personnes victimes que ce soit d'inceste, de viol, elles ont souvent très honte de ce qu'elles ont subi alors qu'elles sont victimes et elles y sont pour rien. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve, pas uniquement du côté de l'excision, mais ce que vous disiez par rapport aux hommes, moi, je pense que il y a un élément aussi, un autre élément important à comprendre, c'est que dans cet environnement de Maya, l'individu n'existe pas. C'est le groupe qui prime sur l'individu. Donc, qu'elle jouit, c'est pas le problème, quoi. Ce qui prime, c'est qu'elle fasse des enfants pour la communauté. Donc, les hommes, généralement, c'est ce que j'explique, c'est qu'on ne se choisit pas. On ne se marie pas parce qu'on s'aime. Non, on se marie pour consolider les liens familiaux. Donc, c'est ça qui est important. Donc, les hommes, ils savent pertinemment que la femme a subi une excision. Ils savent, certains hommes, quand les femmes... Moi, j'ai eu des témoignages de femmes qui refusaient de relations sexuelles avec leur mari parce qu'elles avaient mal. Il y a une femme qui me racontait qu'elle s'enfermait à double tour pour ne pas être touchée par son mari.
Une des conséquences.
Hein. Oui, une des conséquences
donc,
de l'acte. Ouais.
Donc, son mari, il est au courant. Ouais. Il est au courant, le mari. Mais il y a certains hommes qui n'osent pas aller à l'encontre du groupe. Ils ont très peur d'aller à l'encontre du groupe. Il y a de nombreux hommes. Mais pas tous. Moi, je connais, j'ai des amis qui se sont opposés pour leur petite fille. Ou ils se disent, je ne vais pas envoyer ma petite fille voir la grand-mère au village si je sais qu'il y a un risque. Après, c'est chacun prend ses responsabilités. À partir du moment où tu laisses ta fille aller dans un environnement où 99% des petites filles sont excisées, donc tu te rends complice. Pour moi, on se rend complice de ça.
J'ai une question, là, je fais une déclaration d'ignorance, mais quelle est la réaction, enfin, est-ce qu'il y a une loi qui interdit l'excision? Est-ce que l'État prend ses... Après, je sais bien que c'est pas toujours facile de faire appliquer les choses dans les régions les plus reculées. On peut pas mettre un policier partout, et encore, le policier peut-être que lui-même, dans son groupe, dans sa famille, on pratique cela. Mais est-ce que les États ont réagi et interdisent clairement cette pratique?
Alors, en France, oui, c'est interdit.
En France, oui, bien sûr.
En France, c'est interdit, mais ailleurs, en Afrique, moi, je sais qu'au Sénégal, il y a une loi qui interdit... D'accord. Les mutilations sexuelles faites aux femmes, et il y a eu un vrai travail de prévention, de sensibilisation là-dessus. Et même quand j'étais au Sénégal l'année dernière, quand je discutais avec les cousines, elles me disent même que les sages-femmes, les infirmières, elles regardent le sexe de l'enfant et elles préviennent les mères. Donc il y a un vrai travail qui a été fait, et ça est en train de changer petit à petit, mais pas partout. Et le vrai changement, c'est quand les filles, elles vont à l'école. Quand les filles, elles vont à l'école, déjà, elles comprennent et elles font le lien entre leur corps et ce qu'elles vivent, quoi. Et aussi, elles font moins d'enfants. et les chiffres de l'excision baissent et diminuent. Mais c'est vrai que dans certains endroits, je vois comme au Mali, vous voyez, avec l'instabilité politique, il y a une recrudescence de. Mais là, j'ai lu un article la semaine dernière de bébés qui avaient même pas un mois, quoi. C'était à la chaîne, et je sais pas combien de bébés sont mortes. Et ça. Il n'y a pas de réaction politique. Et pourtant, tous ces pays-là ont signé les conventions. Hein.
Les chartes. Les...
Oui, ils ont tous, la Guinée, tout ça, ils ont tous signé. Mais ils laissent faire.
Ils laissent faire.
Je rappelle que c'est lundi, hein, lundi, comme tous les 6 février, que vous avez cette journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales. On en parle ce matin jusqu'à 10h.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
C'est chaque 6 février que se déroule la journée internationale de lutte contre les mutilations sexuelles féminines. On en parle ce matin avec notre sexologue Nader Alami et puis notre invité qui est Alimata Fofana et qui publie « À l'ombre de la cité Rimbaud » aux éditions du Rocher. C'est son histoire, un roman inspiré de son histoire, et vous êtes très active, notamment pour la dénonciation, le combat, et aujourd'hui vous faites des conférences pour parler notamment de l'excision. Longtemps, cette question a été assez mal connue finalement des femmes, la question de l'excision. C'était comme ça, il fallait le faire et on n'en parlait pas.
Ben c'est ça, mais je dirais le corps féminin a été mal connu depuis un certain temps. J'en parlais avec un médecin il n'y a pas si longtemps que ça, qui me disait que lui, quand il a fait ses études de médecine, on ne lui avait jamais parlé du clitoris. Oui. C'était comme si ça n'existait pas.
Et puis ça fait une dizaine d'années que maintenant on connaît la taille du clitoris et qu'effectivement on en parle, on voit des clitoris en 3D.
Ouais. Oui. C'est très récent, c'est vraiment très récent. Et vous me disiez, pardon.
Hein, j'ai dit que finalement, longtemps les femmes, c'était comme ça, on se posait pas la question, fallait le faire.
Bah, on se posait pas la question. Après, c'est ce que je disais précédemment. Quand vous avez grandi dans un environnement, vous n'avez pas été à l'école, c'est très compliqué de remettre en question et de remettre en cause. C'est je pense qu'on se rend pas compte à quel point le rôle de l'école, le rôle de l'instruction. L'instruction nous permet de remettre en question une éducation, de remettre en cause. Et quand vous ne l'avez pas reçue et que vous êtes loin de chez vous, vous êtes attaché. Quand vous êtes dans un univers, on parlait d'univers, dans un monde clos sur lui-même, et que c'est comme ça qu'on vous a éduqué, vous avez subi cela et vous voulez que vos filles se marient comme vous avez été mariées, et que pour vous, c'est ça l'idéal d'une vie de femme, et ben vous allez dans cette direction.
Bien
mais
sûr.
À la différence de ma génération, moi je suis née en France, j'ai grandi, j'ai eu la chance d'aller à l'école. Moi, on m'a permis de remettre en question. La différence avec ma mère, c'est ça. C'est le fait que j'ai été à l'école.
Mais ce qui est très, très intéressant ici, c'est que aussi, donc une, si j'entends bien, une femme qui n'est pas excisée dans un pays où la norme c'est l'excision, eh bien n'est pas femme. Or, une femme ici qui est excisée, donc une femme ici en France, en Occident, qui est excisée, à son tour, il lui manque quelque chose. Elle n'est pas totalement, j'ai souvent entendu ça, je ne suis pas, il me manque quelque chose, je ne suis pas totalement femme. Donc, il y a cette double question de selon l'endroit où on se trouve, à chaque fois, on n'est pas totalement femme ici ou pas totalement femme là-bas. Et ça aussi, c'est quelque chose qui relève de... Il y a un problème... D'identité en réalité qui se pose parfois. Est-ce que vous êtes tombé par rapport à ce genre
de
réflexion?
Oui, vous avez raison d'dire il y a un problème d'identité, double problème d'identité, moi je dirais. L'identité, comme vous dites, en tant que femme, moi pendant très longtemps je me suis sentie à moitié femme, à moitié quelque chose pendant très très longtemps. Et j'ai compris, il y a une psy qui m'avait dit, Alimata, ce que vous cherchez dans votre culotte se trouve dans votre tête. Et je pense qu'elle avait entièrement raison. Donc c'est un vrai travail pour se réapproprier son corps. Parce qu'à travers cet acte, il y a une dépossession du corps. Et donc il y a un vrai travail qui est sur le temps long pour se réconcilier avec son corps. Ça, c'est vraiment un élément très, très, très important. Et aussi déconstruire ce qu'on vous a mis dans la tête depuis que vous êtes enfant. Si vous avez grandi, on vous dit mais ton corps il est sale, faut le cacher et tout. C'est sûr qu'après c'est pas du jour au lendemain qu'on s'éclate quoi. Donc c'est un travail qui est vraiment sur le temps long.
Même si votre héroïne Maya par exemple, en cachette de ses parents, prend des cours de danse.
C'est vrai.
C'est pas toutes les petites filles qui oseraient faire ça quand même.
Non, mais il y a des. Je pense que quand vous vivez des choses extrêmement difficiles, extrêmement compliquées, il y a des moments où vous avez besoin de respirer, de vivre ce que j'appelle des moments de grâce, des moments de pure beauté. Vous avez besoin de ça pour continuer à avancer, pour continuer à vivre. Sans ça, vous vous laissez mourir.
Votre personnage, d'ailleurs, Maya, ne le dit à personne, mais elle espère quand même que quelqu'un le remarquera et le verra.
Tant
que quelqu'un comprendra ce qu'il
dit. Tant qu'elle est enfant.
Oui, quand elle est enfant, oui, bien sûr.
Mais c'est ça qui est beau, je trouve, dans l'enfance. Elle est pleine d'illusions et elle est dans une quête. C'est une quête, là. Elle se dit, mais sa mère a détourné le regard. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont essayé de percer pour essayer de comprendre pourquoi? Parce qu'il y a des enseignantes qui tentent dans le livre d'essayer de comprendre.
Bah, tiens, mais qu'est-ce que t'as?
Mais qu'est-ce que t'as? Ouais. Ton comportement a changé. Mm-hmm. Mais ça va très vite. Puis après, on passe à autre chose, quoi. Mais c'est une espérance que Maya a, comme elle l'a quand elle cherche désespérément le regard de sa mère. C'est ça que je trouve beau, parce que malgré tout, un enfant, il aime ses parents. Il peut vivre des choses atroces, mais tant qu'elle est enfant, il y a un amour, il y a quelque chose de très très fort que je trouve tellement beau que j'ai voulu mettre vraiment ça dans mon livre en exergue.
Bon, oui, dès le départ, c'est vrai qu'il y a, j'ai fini par l'aimer, mon papa.
Oui, c'est ça.
Ouais. Ouais, enfin, votre livre est dur, vous avez eu ce qu'on appelle une éducation à la dure.
Une éducation conservatrice, et oui, je suis d'accord qu'elle était
non, dure. Mais... Non, vous employez le mot corriger. C'est-à-dire que pour apprendre aux enfants, on les corrige.
Oui.
À un moment donné, il y a une scène où où la sœur de l'héroïne joue au foot en bas.
Machel, oui.
Voilà, Maya lui dit, viens, on va rentrer. Et le père leur file une correction quand même. Voilà, aujourd'hui, on appellerait le 119. C'est ce qu'on appelle vraiment une éducation à la dure.
On appellerait 119, mais pas partout, hein, croyez-moi. Dans certains endroits, il y a des choses qui passent.
Le 119, c'est le numéro national.
Oui, mais dans certains...
Pour ceux qui nous écoutent, oui.
Oui, mais dans certains endroits, il y a des choses qui passent. Comment vous pouvez expliquer que moi, j'ai subi une excision à l'âge de 5 ans, je retourne à l'école maternelle, j'ai du mal à marcher, il n'y a personne qui s'arrête? Pourquoi? Moi qui ai bossé dans une école maternelle en tant qu'enseignante, quand il y a un enfant, quand il y a un enfant qui se fait mal, et j'avais beau avoir 26 élèves, je le vois. Mais là, une petite fille qui marche très difficilement, on ne regarde pas. Donc, ça dépend, même sur la question des violences. Combien de fois, moi, j'ai échangé avec des enseignants. Ah, mais on n'ose pas faire des signalements. Ah non, mais après, si on le fait, ça va déclencher tellement de choses. Donc, ça dépend. Il y a certains endroits où on pense que oui, il faut les élever à la dure. Mais je suis entièrement d'accord avec vous. Un signalement, normalement, doit être fait.
Oui.
Parce que moi je suis contre, il va de soi que moi je suis contre toute, on n'élève pas un enfant comme ça. Moi j'ai été élevée avec une très grande violence, ça c'est sûr. Mais même ça, je me dis, pour entrer dans nos familles, même les services sociaux, ils peuvent passer par ce biais-là. S'ils n'osent pas sur la question de l'excision, ils peuvent passer par le biais de la violence. Des corps abîmés, on le voit. Des enfants qui passent leur temps à se battre, ça se voit. Et on ne remet pas ça en question.
L'objectif, hein, c'est la fin de cette pratique, l'excision en 2030.
Il nous reste 7 ans alors. Hein.
Ouais, voilà. Comment est-ce qu'on combat de façon efficace une pratique, alors on a dit qu'elle était
ancestrale,
millénaire. Ouais. Comment on combat ça?
Moi, je crois que c'est au quotidien, c'est par des petites choses, moi, je pense. Avec les femmes avec qui j'ai travaillé, moi, je vois avec ma propre mère, hein. Je vois qu'elle a compris, elle a changé, parce qu'il y a eu des échanges, parce que nous l'avons subi, mais on a parlé tout à l'heure du silence. Mais c'est vrai que le silence, il est présent même dans notre propre famille. On n'ose pas en parler entre sœurs, encore moins avec nos frères. Et moi, je sais que ça a changé quand j'ai osé parler de ça avec ma mère. Ma mère me dit que je suis la seule, nous sommes trois filles. Je suis la seule à lui avoir parlé de cela.
Et votre mère vous raconte son histoire, hein.
Ma mère, là dans le livre, c'est différent de ce que ma vraie mère.
C'est pas parce qu'elle,
de ce que ma vraie mère a vécu, mais c'est vrai qu'elle me parle et elle me remercie. Aujourd'hui, elle me remercie de lui parler parce qu'elle me dit que souvent elle me dit, mais c'est parce qu'on savait pas. Nous, on a grandi là-dedans, on a fait comme on a pu. Ma mère aussi, elle m'a fait subir ça. Mais elle me dit, mais maintenant. Je me pose comme je ne suis toujours pas mariée au grand désespoir de ma mère, s'interroge si c'est pas lié à ça.
Et vous n'avez jamais été mariée ?
Non. mais je ne suis pas contre le mariage.
Alors, contrairement à votre héroïne,
oui, c'est pour ça
que je vous pose la question. Si votre héroïne est encore vivante, c'est grâce à Céline Dion.
Ah oui, oui. Alors,
il y a des moments dans la vie, il faut parler aussi de Céline Dion.
Oui, alors mais ça c'est un moment essentiel.
Mais ça c'est vrai.
Ah ouais, mais je suis une fan absolue de Céline Dion. Je l'aime profondément. Je l'aime d'un amour inconditionnel. Pour moi, Céline, c'est la grâce. Pour moi, Céline, c'est l'émanation du divin sur cette terre. Pour moi, Céline, c'est la preuve ultime que Dieu existe, sa voix. Donc vous imaginez ce que je ressens pour elle. Sans Céline Dion, je pense que je ne serais pas là aujourd'hui.
C'est ce que dit votre héroïne. Alors, elle raconte la première fois où elle entend sa voix à la télévision, hein, ce n'est pas la radio, et que sa copine a enregistré le concert. Alors, elle lui donne la cassette, la VHS, et elle voit le concert de Céline Dion.
Oui, le live, c'est 95, Bercy, le live in Paris, où elle est en tenue, en cuir, avec sa veste, avec les cheveux courts.
Voilà.
Magnifique.
Album 2,
magnifique, sublime. Et le rêve de ma vie, je tiens à le dire, parce qu'on ne sait jamais, mais le rêve de ma vie, c'est de rencontrer Céline Dion.
Céline Dion, elle écoute Beurre FM tous les matins.
On ne sait jamais, vous ne savez pas.
Hein. Il y a 6 heures de décalage.
On commence par rêver et ce rêve finit par devenir une réalité.
Mais justement, en reprenant un mot que Alimata a dit, quand elle a parlé du divin, je pense que, pour répondre à votre question, Philippe, les acteurs religieux aussi devraient intervenir et de manière plus importante pour justement dissuader,
condamner
d'abord de manière ferme, hein, parce que qu'on se le dise, les pratiques continuent d'exister principalement dans ces pays-là, mais ces pays-là sont majoritairement musulmans.
Il n'y a rien de religieux, il faut être clair.
Il n'y a rien de religieux, mais certains.
Ça existait avant
l'arrivée de l'islam en Afrique de l'Ouest, oui, vous avez raison, on a dit qu'il n'y a rien de religieux, mais l'excision est politique. C'est ça derrière. L'excision est politique, donc certains marabouts jouent là-dessus, et vous savez, il y a certaines communautés qui suivent, mais. Le marabout dit ça, ils suivent. Si certains marabouts prenaient leur courage à deux mains en disant les choses clairement, je pense que ça jouerait.
Parce qu'il y a une espèce de flou, là. On ne sait pas si c'est peut-être religieux, vous savez. Donc, puisqu'on ne dit rien, puisqu'il y a silence, et puisqu'on le fait depuis toujours, c'est religieux.
Oui, c'est vrai, Nadia, vous avez raison.
Donc, les responsables religieux ont un rôle à jouer.
Doivent prendre la parole et dénoncer cela. Mais après... certains hommes tirent bénéfice de cela.
Ah, c'est intéressant, ça.
Oui, il faut dire que c'est quand même une pratique qui est faite pour les hommes.
Moi, je dis souvent, les femmes ont les mains dans nos vagins et les hommes rôdent autour.
Il faut être clair. C'est vrai qu'on n'a pas entendu beaucoup de cadres religieux prendre position sur le sujet. Hein.
Alors qu'il y a tous les vendredis un grand rassemblement.
Ouais. Oui, là, c'est le moment.
Vous avez les écoles, vous avez... Non, mais il y a vraiment beaucoup... pas que d'ailleurs, hein, attention, il n'y a pas que. Mais il y avait beaucoup d'acteurs qui doivent entrer en ligne de compte pour condamner, pour réexpliquer tout ce qu'on perd, justement, toutes ces forces vives que l'on met en danger, justement, en continuant de faire en sorte que cette pratique existe.
Oui, vous avez entièrement raison. Que les pouvoirs religieux, mais également politiques... Hein, parce que moi, ça fait très longtemps que je n'ai pas entendu un homme politique condamné publiquement à la télévision nationale l'excision.
Alors, je rappelle le titre de votre livre, il s'appelle « À l'ombre de la cité Rimbaud » aux éditions du Rocher. Un livre parfois dur, mais poignant, inspiré de votre histoire. Tiens, montrez-le à la caméra, puisque l'émission est filmée. Pris beaucoup de plaisir à lire votre
histoire. Ça me fait plaisir.
Voilà votre histoire à suivre. Cette petite fille qui grandit et qui finit par partir marcher sur les traces de son idole, puisqu'elle met un océan entre ses parents et elle. Elle part vivre au Canada, mais on ne sait pas si elle rencontre Céline Dion.
Non.
Non, toujours pas.
Toujours pas, mais ça va arriver.
Merci Alimata d'avoir été avec nous ce matin.
Merci à vous.
Nader, on vous dit à mardi. Je vous rappelle que l'émission se réécoute sur beurrefm.net en podcast et que vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Et passez une très belle journée. Santé sur Beurre FM.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.